entrevues. Radio Shalom Bourgogne 97.1 FM.
Chères auditrices, chers auditeurs de Shalom Bourgogne, vous êtes dans votre émission Histoire, mémoire et transmission. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'être avec M. Emmanuel Ménétré, qui est secrétaire de la régionale Bourgogne de l'Association des professeurs d'histoire-géographie. Bonjour.
Bonjour.
Nous allons aujourd'hui parler d'un livre important qui est sorti début 2025, « Ce que j'ai vu à Auschwitz, les cahiers d'Alter », qui est paru donc aux éditions Le Seuil, préfacé par M. Klarsfeld, Serge. Livre important. Et je vous remercie, M. Maitré, de nous présenter rapidement ce livre et son histoire.
Alors, l'histoire de cet ouvrage, en fait, est issue, comme le titre du volume l'indique, des cahiers que Alter Feinsilberg a rédigés entre 1945 et 1946 sur des cahiers d'écoliers. Cahiers donc, qu'il a remplis de ses souvenirs de sa déportation à Auschwitz, pour utiliser un terme très générique qui ne renvoie pas à toute la complexité du lieu et de ses évolutions. Donc, souvenirs qu'il a consignés sur quatre cahiers d'écoliers et notamment relatifs, alors d'abord aux épisodes de sa déportation, au fait qu'il ait été également mis au travail dans ce qu'on appelle le Sonderkommando, jusqu'à son évasion au moment de ce qu'on a appelé les marches de la mort. Il a rédigé donc ses souvenirs à son retour en France. Alter Feinsilberg est un juif de Pologne. Il était né en Pologne, issu d'une famille très nombreuse, au gré de multiples péripéties, puisque c'est quelqu'un qui a eu une vie très très engagé et multiple. Il a donc fini par émigrer en France. Et donc, il a fait le choix, après sa déportation, non pas de rester en Pologne, mais de revenir en France, en écrivant donc ses cahiers en polonais.
L'histoire de ses cahiers, en quelques mots.
Alors, l'histoire de ses cahiers, eh bien Alter Feinsilberg a donc rédigé ses souvenirs juste après son retour de déportation, et avec la volonté de témoigner pour le monde, je dirais. On pourra revenir sur son positionnement par rapport au judaïsme, puisqu'il a un positionnement qui lui est propre, je dirais. Et puis ensuite, en fait, ces cahiers sont restés dans une boîte qu'il a entreposée dans ses domiciles successifs. Alter Feinsilberg s'est marié peu après la guerre avec une femme qui s'appelait Régine. Ils ont eu un fils, Roger Feinsilberg. Et c'est Roger Feinsilberg qui, bien des années après, devenu lui-même père et grand-père, qui a décidé d'abord d'ouvrir la boîte où se trouvaient ses cahiers, ce qu'il s'était très longtemps refusé à faire. Il a donc décidé d'ouvrir cette boîte pour des motifs également sur lesquels on pourra revenir éventuellement. Et ses cahiers étant écrits en polonais et lui-même ne pratiquant pas la langue polonaise, il s'est rapproché du mémorial de la Shoah, qui l'a mis en contact avec l'historien Alban Perrin, qui pratique lui-même la langue polonaise et qui a donc traduit les cahiers d'Alter. Et leur intérêt historique est tel que cette traduction, qui était d'abord le résultat d'un souhait personnel, d'un souhait intime, je dirais, de Roger Feinsilberg, eh bien, cette traduction a fini par se transformer en un véritable travail d'édition critique qui donne donc lieu au très beau volume que les éditions du Seuil ont édité, justement, puisque au cœur du travail d'édition se trouve notamment la reproduction in extenso de trois des quatre cahiers d'Alter. Le quatrième cahier n'étant pas reproduit pour des raisons sur lesquelles Alban Perrin revient, dans la mesure où ils reprennent en partie des éléments qui sont contenus dans les trois autres. Voilà pour résumer la genèse de ce volume.
Très bien. Je rappelle que je suis avec M. Emmanuel Ménétré, secrétaire de la régionale de Bourgogne, de l'Association des professeurs d'histoire géo, que nous parlons d'un livre important qui s'appelle « Ce que j'ai vu à Auschwitz » et qui est d'Alter. Vous avez parlé des ondeurs commando. J'aimerais que vous parliez tout de suite d'un élément fondamental de ce livre, qui sont liés à la vie qu'il a vécue et au rôle qu'il a eu dans les camps d'extermination, et notamment sa place dans les ondeurs commando, ce qu'il a pu en écrire.
Alors, d'abord, peut-être rappeler rapidement ce qu'on appelle Sonderkommando, puisque c'est un terme qui peut renvoyer à des réalités qu'il convient de préciser. À partir du moment où les nazis ont décidé de l'assassinat systématique des juifs d'Europe, donc de la mise en œuvre d'une politique génocidaire à leur encontre, et que se sont développés donc les centres de mise à mort, dans l'actuel territoire de la Pologne, hein, Birkenau, Majdanek, Chemno, Mezhets, etc. Des groupes de déportés, alors notamment donc à Auschwitz-Birkenau, des groupes de déportés ont été affectés à un travail très particulier, consistant à, après l'assassinat des victimes, à extraire les corps des chambres à gaz, à les dépouiller des éléments pouvant encore intéresser les nazis, dents, or, éléments éventuellement dissimulés dans les corps, etc., et à procéder à la crémation de ces corps. Alors, soit dans les fours crématoires, soit dans des bûchers ou dans des fosses qui étaient à proximité de ces installations. Donc les Sonderkommando sont vraiment des hommes qui ont été placés au cœur même du processus d'assassinat, hein, à l'épicentre, pour reprendre le titre d'un colloque qui a eu lieu la semaine dernière au mémorial de la Shoah. Les Sonderkommando à Birkenau sont à l'épicentre de la destruction des Juifs d'Europe. Il convient tout de suite quand même de bien indiquer que ces Sonderkommando ne choisissaient pas d'être affectés à ces unités de travail. Ils étaient désignés par les SS pour cela, et certains d'entre eux étaient eux-mêmes, au bout d'un laps de temps plus ou moins long, très souvent assassinés, puisque les nazis avaient l'obsession de ne pas laisser de traces ou de témoins du crime qu'ils commettaient. Et donc, de nombreux Sonderkommando ont été eux-mêmes, au bout d'un laps de temps variable, assassinés. Ce n'est pas le cas d'Alter Feinzilberg, ce qui montre aussi que donc ce n'était pas toujours la règle. Il a servi pendant 18 mois au sein du Sonderkommando de Birkenau entre disons 1943 et 1944, puisque c'est en novembre 1944 que Himmler lui-même a décidé du démantèlement des installations génocidaires à Birkenau à travers la destruction des crématoires qui avaient été aménagés quelques années auparavant, à partir de 1942.
Quelques mots sur ce travail et l'importance de ces témoignages.
Alors, le témoignage d'Alter est vraiment tout à fait essentiel. Alors, comme je le disais tout à l'heure, les éclairages apportés par Roger Feinzilberg, d'un point de vue plutôt intime et familial, et les éclairages historiques d'Alban Perrin retracent l'existence d'Alter, qui est une vie vraiment absolument extraordinaire, une vie de militant, hein, engagé dans le communisme dès les années 20, donc en rupture totale avec le judaïsme de ses parents et notamment de son père, un judaïsme très rigoureux, très orthodoxe, avec lequel il a complètement rompu, s'engageant corps et bien dans une vie de militant, qu'il a notamment amené à combattre en Espagne dans les brigades internationales, et à constamment, tout au long de sa vie, défendre cet idéal communiste, même si son engagement militant a quand même connu une rupture après son retour de la déportation en tant qu'engagement, je dirais presque même physique, puisqu'il est revenu très, très affecté physiquement de la déportation. Mais dans l'esprit, il est resté toute sa vie vraiment un militant de la cause qu'il avait décidé de défendre dès sa jeunesse. Donc le témoignage est déjà très intéressant pour cela. Et puis il est intéressant aussi parce qu'il donne des éclairages historiques sur des moments très particuliers du fonctionnement du Sonderkommando. D'abord, je vais en retenir, disons, deux pour ne pas faire une réponse très très longue. Alter a été au cœur de la tentative d'insurrection du Sonderkommando du 7 octobre 1944. On dit tentative puisqu'elle n'a finalement pas abouti complètement, mais elle a notamment connu un déroulement et des conséquences dramatiques, mais Alter, dans son témoignage, donc, nous donne des éclairages sur cette période. Et puis il revient aussi sur un autre élément qui est assez connu. Nos auditeurs savent peut-être que quatre photographies clandestines ont été réalisées par les membres du Sonderkommando juste à l'entrée des chambres à gaz. Ces photographies sont très largement diffusées, elles sont notamment très présentes dans les manuels scolaires, mais pendant très longtemps, il y a eu beaucoup de débats, voire même de polémiques, notamment sur leurs conditions de réalisation et sur leur attribution, sur l'attribution du ou des auteurs de ces photographies. Et le témoignage d'Alter, bien sûr croisé avec d'autres sources, permet de remettre en plus clairement les choses à leur place, si j'ose dire, en attribuant notamment le rôle du photographe qui a pris ces photos, qui est un déporté grec, Alex Ferreira. Le travail d'Alter nous permet de remettre au clair l'histoire de ces photos qui sont vraiment devenues un symbole très, très marquant de cet épisode du génocide des Juifs en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale.
Qui sont de mémoire les seules photos
oui,
des chambres à gaz.
À ce jour, voilà. Alors, à ce jour, ce sont les seules photos. Alors, il y en a quatre. Une où on voit des femmes dénudées marchant vers l'entrée de la chambre à gaz. Deux autres où on voit le travail des Sonderkommando au moment où ils procèdent à la crémation de corps en extérieur. Ces photos ayant été prises vraisemblablement de l'intérieur de la chambre à gaz. Il faut dire aussi, je reprécise, que c'est un moment particulier auquel les photos ont été prises, hein, puisque c'est au cours de l'été 1944. C'est un moment très particulier, puisqu'on est au cœur du moment où à Birkenau arrivent les Juifs de Hongrie.
De Hongrie, oui.
Voilà, qui ont fait l'objet d'une politique d'assassinat vraiment massive et très rapide. Mmh. Donc c'est vraiment un moment particulier. On a deux photos où on voit les Sonderkommando, si j'ose dire, au travail. Et puis il y a une autre photo où on ne voit que des cimes d'arbres. Alors là, il y a des débats. Est-ce que c'est une photo qu'on n'a pas eu le temps de cadrer plus précisément? Est-ce qu'on a voulu montrer la fumée s'échappant des bûchers? Là, il y a des débats, mais en tout cas, ces quatre photos ont été prises par des membres du Sonderkommando et ensuite ont pu être la pellicule, si vous voulez, a pu être exfiltrée pour être diffusée, sachant que l'appareil en lui-même n'a pas été bien sûr retrouvé. Puisqu'il a été vraisemblablement enterré près du crématoire où les photos ont été réalisées, sachant qu'il faut quand même indiquer que les Sonderkommando ont souvent eu la volonté de laisser une trace du crime qui était commis contre les Juifs et de la tâche qu'on leur imposait de réaliser, puisqu'ils ont souvent écrit, alors bon, Alter lui a écrit au retour de sa déportation, mais ils ont aussi écrit pendant la déportation, puisqu'on a des témoignages qui ont été édités, hein. On peut citer un volume qui est paru en 2005, notamment à l'instigation du Mémorial de la Shoah et des éditions Kalman-Lévy, qui s'intitule « Des voix sous la cendre ». On peut citer également un autre témoignage qui est paru quelques années plus tard, qui est celui d'un déporté italien qui s'appelle Shlomo Venezia. Et plus récemment, très récemment, le témoignage de Marcel Nadjari, un déporté grec, qui a lui aussi témoigné de ce qu'il a vécu. Donc on a des traces multiples, soit laissées sur place, soit éditées, soit écrites après et éditées après la guerre, des traces écrites qui viennent donc compléter et croiser ces quatre photographies qui, à ce jour, sont les seules connues de cet épisode.
De mémoire, l'auteur de ce livre, Alter Fessenberg, évoque l'origine de l'appareil photo qui a servi.
Alors, vraisemblablement, alors vous savez que lorsque les convois de déportation arrivaient à Birkenau, bien sûr, souvent les déportés avaient apporté avec eux des affaires personnelles, hein, des bagages, des objets, etc. ils étaient dépouillés de tout cela. Tous les objets qui étaient récupérés, quels qu'ils soient, manteaux, objets précieux, etc., étaient entreposés dans un lieu de Birkenau qui s'appelait le Canada, qu'on appelait le Canada, qui sont de gigantesques entrepôts. Et on suppose que par le biais des mouvements de résistance interne, puisqu'il faut savoir qu'il y a des organisations de résistance interne, hein, y compris à Birkenau, il est vraisemblable que des déportés travaillant au Canada ont transmis au moins un membre du Sonderkommando un appareil photo pour pouvoir réaliser, et la pellicule, pour pouvoir réaliser ces clichés. Et ça, c'est très important, et les auteurs du livre y reviennent souvent. Il faut bien avoir à l'esprit que les Juifs déportés ne sont pas allés à la mort en acceptant fatalement le sort qui leur était assigné par les SS. Il y a donc des organisations de résistance, il y a des volontés de témoigner, il y a des volontés de laisser trace, il y a des volontés d'alerter, qui sont très importantes pour d'abord rendre justice à ceux qui ont eu cette volonté, et pour ne pas s'imaginer que finalement il y a une sorte de passivité, d'accepter un sort de victime, ce qui serait finalement nier la complexité des réactions que les Juifs eux-mêmes ont pu avoir face à la politique génocidaire dont ils étaient l'objet et la cible.
Ce qui est très émouvant dans ce livre, parce que vous l'avez dit, en creux, la question, chaque personne a sa place et son histoire, il faut lui redonner vie. Et en l'occurrence, il va parler précisément de camarades ou de gens qu'il a vus être assassinés,
oui.
Ce qui est quand même très important et donne une mémoire concernant ces personnes assassinées. Et je crois... Il évoque des actes de résistance individuelle, notamment, me semble-t-il, d'une femme, qui est un épisode très original qui va dans le sens de ce que vous avez dit, puisque je crois que cette femme a réussi à arracher le revolver à un SS et va abattre ce SS au sortir du convoi qui l'amenait.
Alors effectivement, Alter revient à plusieurs reprises sur des moments comme ça de je dirais même plus de rébellion, de résistance. Hein. On peut en citer un autre. Lorsque le Sonderkommando a entrepris d'organiser sa révolte, elle devait initialement avoir lieu au cours de l'été 44, et puis pour des raisons sur lesquelles l'ouvrage revient, elle a été finalement décalée au mois d'octobre. On peut s'interroger comment mener une révolte, alors une révolte au sens militaire du terme, hein, une action militaire. Hein, il faut bien s'entendre, il ne s'agit pas de se révolter simplement, par exemple, en refusant de travailler ou en se mettant à proclamer des slogans ou quoi d'autre. Comment est-ce possible ? Il faut savoir que quatre femmes qui travaillaient à l'extérieur de Birkenau, vous savez qu'il y avait ce qu'on appelait des commandos, c'est-à-dire des usines, des ateliers, des champs dans lesquels certains déportés étaient employés, et qui ont fait entrer notamment des explosifs nécessaires à la mise en œuvre de la révolte qui consistait notamment à la destruction d'un crématoire, du crématoire 5, si je ne me trompe pas, crématoire 5 et donc de sa chambre à gaz. Donc effectivement, le volume nous permet d'insister sur cette notion d'une volonté de résister, et c'est vraiment très intéressant puisque ça caractérise véritablement la personnalité et les actions d'Alter von Silberg, hein, qui a, comme je le disais tout à l'heure, toujours eu vraiment chevillé au corps cet esprit de rébellion. Et d'ailleurs, il insiste très souvent dans son témoignage sur l'importance du collectif. Et lui qui a connu bien sûr des épreuves absolument terribles, puisqu'il a été battu à plusieurs reprises, il évoque le rôle essentiel de la solidarité pouvant exister entre certains groupes de déportés pour arriver parfois à la survie. Même si, bien sûr, il ne faut pas non plus généraliser cette solidarité, puisqu'on connaît d'autres témoignages où, au contraire, malheureusement, il pouvait y avoir entre déportés des relations plus complexes. Mais Alter revient beaucoup sur cette force du collectif, et ce collectif qui parfois même sauve. Et c'est une dimension que je trouve aussi très intéressante dans l'ouvrage.
Emmanuel Ménétré, vous êtes historien, je le rappelle, et l'homme qui a traduit ce texte est un historien, M. Alban Perrin, qui l'a traduit du polonais, qu'il parle et comprend lui-même. Et il fait revivre aussi ce personnage et son histoire. C'est intéressant d'expliquer comment M. Alban Perrin se saisit de cette traduction, nous permet de connaître ce livre tellement important en termes de témoignage, et en même temps parle et construit quelque chose, une œuvre autour du personnage de M. Alter
Fassbinder. Oui, absolument. Oui. Absolument, c'est vraiment un des grands intérêts de l'ouvrage, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas, si vous voulez, simplement d'une reproduction en fac-similé des pages du cahier d'Alter, ce qui est déjà un travail d'édition tout à fait remarquable, puisque j'insiste sur la très grande qualité du travail de reproduction et d'édition qui a été réalisé. Il y a donc une très riche mise en perspective historique par Alban Perrin, qui refait finalement toute la biographie d'Alter Fassbinder, puisque Alter, dans ses cahiers, ne parle que de la période de la déportation. Et donc, il y a tout un travail d'historien, hein, qui est Alban Perrin, et donc de croisement avec d'autres sources multiples, hein, y compris des archives qui sont aujourd'hui, par exemple, conservées à Moscou, les archives, bien sûr, du mémorial de la Shoah, par exemple, les archives de Drancy, puisque Alter Fassbinder est passé par là. Et donc, on a tout l'itinéraire, vraiment depuis la naissance d'Alter, hein, puisqu'on a même son acte de naissance qui est reproduit dans l'ouvrage, qui n'est pas chose aisée, puisque quand Alter est né, certes c'est sur l'actuel territoire de la Pologne, mais à l'époque c'était dans la Russie tsariste, donc il a fallu retrouver vous voyez, ces éléments-là dans des fonds d'archives un petit peu lointains. Et donc on a tout l'itinéraire, donc depuis la naissance jusqu'à l'engagement militant dont je vous parlais tout à l'heure, la guerre d'Espagne, le passage par les camps du sud-ouest de la France après la retirada, l'arrivée à Paris où Alter est arrêté dès début 1942, le passage par Drancy, la déportation par le premier convoi parti de France le 27 mars 1942, puis donc la déportation avec ses multiples épisodes, l'affectation aux Sonderkommando, puis au moment des marches de la mort, le fait qu'Alter est comme toujours dans son esprit d'engagement et de résistance, profiter d'un moment pour s'échapper du convoi qui l'éloignait de Birkenau, mais pour finalement l'emmener vers d'autres espaces concentrationnaires. Et le fait qu'il se soit caché avec un camarade pendant plusieurs mois avec l'aide d'une famille polonaise, puis le retour à Paris, et même après le retour à Paris, donc ce témoignage qu'il écrit dans son cahier, des moments où son témoignage a également été sollicité pour des raisons historiques ou juridiques, jusqu'à 1985, où Alter a été invité par le musée d'Auschwitz à revenir en Pologne pour témoigner de son expérience. Il a alors retrouvé la femme polonaise qui l'avait aidé au moment de sa fuite. Il y a une photo très émouvante dans l'ouvrage à ce sujet. Et donc jusqu'à sa mort en 1987. Le tout étant donc complété, comme je le disais tout à l'heure, par des éclairages plus personnels, mais tout à fait intéressants aussi, de Roger, donc le fils de Régine et d'Alter, et donc sur son rapport très particulier à ses cahiers, sur son histoire familiale et son histoire individuelle, et sur les raisons donc, qui l'ont poussé à d'abord à les faire traduire, puis à les faire éditer en collaboration avec Alban Perrin.
Très bien. Je vous remercie, Monsieur Ménétré, donc secrétaire de la régionale de Bourgogne de l'Association des professeurs d'histoire-géographie. Nous venons de parler, vous venez de parler d'un livre, « Ce que j'ai vu à Auschwitz, les cahiers d'Alter », écrit par Alter Fassbinder, repris par son traducteur historien Alban Perrin, qui en profite pour contextualiser et parler de l'histoire de ce personnage important. C'est un témoignage essentiel, très intéressant sur le plan de la méthode historique, très important sur le plan de la vérité historique. Je vous remercie beaucoup de votre intervention, Monsieur Ménétré, et à bientôt sur Shalom Bourgogne dans votre émission Histoire, Mémoire et Transmission.
Les entrevues. Radio Shalom Bourgogne. 97.1 FM.